J'ai retrouvé Clémentine Sélarié au théâtre une bonne heure avant qu'elle ne commence à répéter. Donc on était toute seule, ou quasi, et on a poussé les portes battantes de la salle.
Attention, alors je vais vous éclairer, parce qu'on va pas se casser la gueule, ce serait quand même embêtant. Alors, hop.
Ouh. On est dans le noir.
On va passer par là. Attention, vous voyez ?
Ouais, c'est bon.
Tac, tac, tac.
Là, je précise quand même qu'on traverse la scène.
Oui, on traverse la scène. Et ça, c'est le canapé où on répète. Et alors, je passe ma vie au théâtre parce qu'en fait, j'habite au-dessus d'un autre théâtre. Je ne dis pas lequel parce que... Hein. Du coup, je vais de théâtre en théâtre, si vous voulez. J'ai plus de vie. Enfin, ma vie, c'est le... Voilà. Et c'est merveilleux.
Si on a le temps, on ira dans le décor. Mais peut-être qu'on n'aura pas
Bien
le
sûr.
Temps.
Bien sûr. Voilà. Fais ce que vous voulez.
Elle est inquiète et dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans une comédie. » Et la voici en héritière, qu'on croit naïve, dans Potiche, pièce de Barrier et Grédy qu'elle joue en ce moment au Théâtre Libre à Paris, dans une mise en scène de Charles Templon. Au cours de cette année, Clémentine Sélarié a joué une bourgeoise au foyer qui décide de passer le bac. C'était début janvier pour la série Le Diplôme, un rôle pour lequel elle a obtenu le prix de la meilleure actrice au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Au cinéma, il y a quelques mois, elle a été une mère sûre de ne plus appartenir au même monde que sa fille, dans Connemara, d'Alex Lutz. Et revoici Clémentine Sélarié au théâtre, là où elle a commencé. Je la suis, dans le noir, avec son portable en lampe torche. On virera des escarpins et une blouse de soie, des éléments de costume jetés en vrac sur le canapé. On écoutera du flamenco et une voix de Dracula. Le tout avec un micro, évidemment, mais sans caméra. Une échappée avec Clémentine Sélarié dans Totémic. Ça commence comme ça.
Rebecca Manzoni, sur France Inter.
On va se mettre dans ma loge, comme ça...
Parfait.
Ça vous va ?
Super.
C'est bien qu'on ne soit pas filmé, hein, ça repose.
Ah oui ?
Ah oui, ça repose, oui. Toujours, en représentation, c'est très chiant, ça. C'est vraiment... Parce que même quand on n'est pas en représentation, dans une émission où il faut se faire belle... Enfin, ça, c'est dans ma tête aussi, mais c'est un peu le par respect. Mais même quand on n'est pas comme ça, dans la rue, si vous êtes en ours ou en clodo, si les gens vous reconnaissent, ils se disent « Oh là là, elle est malade, je sais pas. » Enfin, peut-être pas, hein. Il y a une actrice, mon fils m'a dit, Emma Thompson, qui elle s'en fout complètement, que j'adore évidemment, que je trouve géniale. Mais il faut assumer ça. Moi, j'assume, en fait, j'assume pas. Je suis pas si libre que ça. Bon, bref, je vais pas vous raconter des conneries.
Bon, c'est pas des conneries, là.
Non, c'est un peu embêtant, même. C'est pas...
Qu'est-ce qui est embêtant ?
De ne pas être libre, vraiment. De pas s'en foutre, vraiment, du regard des autres. C'est vraiment un truc, le regard des autres, ça, c'est...
Tenez-moi le micro, juste de petite...
Oui, bah oui, je vous en prie. Moi, j'ai fait de la radio, j'adorais ça.
Mais oui, vous avez commencé.
Oh, j'adorais, c'est génial, c'est tellement magique. Vous savez ce qu'Orson Welles avait dit, hein, que la radio, c'est du cinéma, quoi. Sans l'image, bon.
Non, mais d'ailleurs, puisque vous parlez de la radio, pour préparer l'émission, j'ai réentendu l'ouverture...
De Radio 7.
Oui.
Oh, c'était génial, j'étais surexcitée.
On écoute, je l'ai...
Ah oui, d'accord, oui, c'est...
Radio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
De juin 1980, lancement de Radio 7, station dédiée à un public jeune.
Changer de planète, écoutez Radio 7.
On est super content, mais on est mort de trac.
Changer de planète, oh là là.
Salut les 7.
Bonjour, c'est Radio 7.
Lundi 2 juin 1980.
Sur 99,7 MHz.
En modulation de fréquence, bien sûr. Salut Jean-Pierre.
Bonjour Clémentine.
Ça va ?
Un petit peu. Très très bien.
On a le cœur qui bat une allure et on ne pouvait pas savoir. Salut Alain, Alain à la console.
Ce qui est drôle, c'est que quand on a le trac, ce qui était le cas, je peux enlever l'oreillette.
Ouais.
On est...
C'est, ça, c'est un truc. Et quand on joue, pareil. Hein, quand on joue, tout d'un coup.
On a la voix qui monte.
On a. Bon, c'est... Mais c'est génial. Ben oui, mais oui, c'était, mais c'était dingue. Ouvrir une radio, c'est un truc de fou quand même. C'était génial. C'était. Après, bon, je dormais pas parce que j'allais tout le temps dans au palace. Donc je rentrais
donc
direct
en boîte.
Après, oui, en boîte de nuit. Donc je rentrais du palace sans avoir dormi, complètement dézingué, mais en pleine forme. Et j'allais me recoucher après Matin Bleu, parce que Matin Bleu c'était 7 heures, donc il fallait me lever à 6 heures. C'était.
Vous passiez la nuit au palace à danser.
Oui.
Et après vous enchaîniez avec une matinale de radio.
Oui. Mais je dansais sans boire. J'avais une gourde d'eau. Sinon, j'avais pas un rond, donc je pouvais pas m'acheter de trucs parce que je gagnais vraiment 3 clopinettes. Mais on s'en fout, voilà. Et j'allais. Vous savez qui avec qui j'allais danser? Vous ne deviendrez jamais. Avec Laurence Bloch. mais oui. Et elle le sait. Elle sait que j'en parle quelquefois. Mais je vous jure, c'est la seule copine. Parce que moi, ils étaient tous fatigués, franchement. Moi, si vous voulez, je touche du bois, mais j'ai une énergie qui, quelquefois, qui me trahit, parce que les gens comprennent pas, ils pensent que je prends de la drogue, pas du tout. Bref, donc j'appelais Laurent, je lui dis, tu viens, on va danser? Elle me dit, ouais. Alors elle vient à la maison, on s'habillait, on se mettait des pailles. C'est génial, on allait danser très, très, mais tard. Et le matin, ben oui, salut, bonjour. Et puis à 9h, bon, j'allais me coucher, parce que, bon, j'allais me coucher quand tout le monde venait bosser à 9h. C'était génial, c'était un très beau souvenir. Puis après, du coup, j'étais le soir, c'était mieux. Régime sensuel, et après j'allais danser. Et c'était l'époque de Sydney à Chipper à Chopper, le palace, oh là là, mon Dieu, c'était tellement génial. Mais voilà.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans le palace?
La danse. Moi j'adore danser, j'adore bouger, j'adore l'énergie qu'il y a, la liberté, là, parce qu'on, si vous voulez, on n'est pas là à faire des conversations, les conversations, ça m'emmerde tellement, de dire, alors, qu'est-ce que tu penses de... Moi j'aime bien quand on est libre et qu'on rigole et qu'on fait la fête. Mais la fête, pour moi, c'est pas forcément l'alcool et certainement pas la drogue. C'est vraiment danser et s'éclater, être dans une folie quoi, douce quoi. C'est pour ça que j'adore les soirées gays, que j'adorais les folivores au Bataclan, que j'adorais que j'y allais. Enfin, parce qu'il y a une liberté dans les hommes qui se travestissent, qui sont. Et c'est pour ça aussi que j'ai une découverte avec Hugo Bardin dans la pièce qui est merveilleuse. J'adore ce mec.
Précision, dans Potiche, Clémentine Sélarié interprète Suzanne, épouse Pujol, dont la vie est dans un premier temps dédiée à son mari, et Hugo Bardin, plus connu sous son nom de drag queen Paloma, Hugo Paloma donc, joue la secrétaire et la maîtresse du mari de Suzanne Pujol.
Et c'est une découverte, c'est une rencontre incroyable, parce que il a une poésie, il a une douceur, il a une vérité qui est accompagnée d'un excès, mais il y a des femmes comme ça. Qui sont très, très féminines, très... C'est une autre forme de féminité qui est vachement marrante, qui est géniale.
Vous, sur votre carte d'identité, il n'y a pas écrit Clémentine?
Non.
Il y a écrit Meriem.
Meriem, oui.
C'est quoi l'histoire de ce prénom?
C'est ma grand-mère qui s'appelait Meriem, de la Marlière. Et
aristocrate, donc?
Vous voyez, j'avais même... J'avais oublié qu'il y avait une particule. Parce que ça c'est des choses qui me sont complètement étrangères. Et maman, en fait, a perdu Meriem quand elle avait 14 ans, qui est morte brutalement, et ça a été pour maman, je crois, un truc atroce, enfin c'est normal. Et du coup elle m'a appelée comme sa maman. Et pourquoi sa maman s'appelait Meriem, qui est donc un prénom arabe qui veut dire Marie en arabe? C'est parce que mes arrière-grands-parents, donc les parents de Meriem, ma grand-mère, étaient des chercheurs d'or. Alors moi, je les imagine à cheval, vous savez, comme dans les films, dans les westerns. Et ils déménageaient tout le temps. Donc ses parents ont eu Meriem en Algérie. Mais ils ont eu une autre fille en Espagne, ils l'ont appelée Mercedes. Si ma grand-mère s'était appelée Mercedes, mais j'aurais adoré, parce que Mercedes, c'est magnifique. Mais Meriem, c'est très beau. Donc, c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Clémentine, c'est Patrick Meyer qui m'a donné ce prénom pour Radio 7.
Alors, vous vous êtes appelée Clémentine?
Pour la radio. Et après, j'ai gardé, parce que, complètement débile, je me suis dit, je ne vais pas changer maintenant, parce que peut-être les gens me connaissent, genre... Vous voyez, pour mon métier, pour être actrice, je voulais être actrice, moi. Je voulais être actrice depuis 14 ans au lycée, puis 16 ans après, quand maman m'a emmené voir les Condos Maupassant. Mais ça m'est tombé dessus comme... Voilà.
Et vous avez gardé Clémentine, de
oui,
fait.
Oui, j'ai gardé Clémentine. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé Clémentine. Genre.
Vous trouvez que ça vous va bien, Clémentine?
Non. Enfin, moi, personnellement, moi, Meriem, non. Parce que c'est Clémentine, vous voyez, c'est titi. Mais moi, je ne suis pas titi tout le temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce Clémentine, vous... un côté qui rit tout le temps, mais bon...
Est-ce que dans votre parcours théâtral, vous avez eu l'occasion de jouer des classiques, par exemple?
Ben non, mais je vais le faire.
C'est vrai?
Vous savez, pour moi... Ah ben oui, pour moi, les choses ont commencé à 60 ans. 50, 55, quand mes enfants étaient grands. Donc moi, tout est à faire, là. Moi, l'âge, c'est un non-sujet. Donc, Phèdre, j'aimerais énormément jouer Phèdre. J'aimerais énormément jouer Caligula. J'arrêterais jouer un homme... Ou un rôle d'homme de Molière ou un... Oui, j'adorerais. Une tragédie classique, oui, bien sûr.
Cette chanson porte un titre de film, c'est Opening Night, premier morceau d'un album à venir qui promet, avec cette voix,
popular slogan,
Alex Turner,
and a bucket of pain.
Des Arctic Monkeys.
Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping.
Bonjour quand même.
Hein?
Bonjour.
Des Arctic Monkeys à Jacqueline Maillon peut-être que vous avez là un condensé de totémique. Jacqueline Maillan, pourquoi ? Parce que c'est la première à avoir interprété le rôle principal de Potiche, pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, que Clémentine Célarié joue au Théâtre Libre en ce moment. L'histoire de ce rôle commence donc avec Jacqueline Maillan, en femme dévouée d'un dénommé Robert, directeur d'une usine de parapluies. C'est le matin, Suzanne apporte son café à Robert et son kier de la soirée qu'il a passée avec des clients allemands. La pièce fut créée au Théâtre Antoine en septembre 1980 dans une mise en scène de Pierre Mondy avec Jacques Joanneau en Robert et Jacqueline Maillan en Suzanne.
Il paraît qu'il y a de jolies filles au Malaboum, non ?
Oui.
Oui.
Oui, enfin... toujours les mêmes. Ouais.
Tu m'y emmèneras une fois.
Bah t'es folle, enfin, c'est pas ta place.
Ah ben là non plus, hein. Tiens. Alors c'est pas ma place à la cuisine, c'est pas ma place au Badaboum. Ben où est-elle ma place?
Mais arrête de poser des questions idiotes.
30 ans plus tard, en 2010, François Ozon adapte la pièce pour le cinéma avec Catherine Deneuve dans le rôle de Suzanne et Fabrice Luchini dans celui de Robert. À la faveur de circonstances que je vous détaillerai plus tard, Suzanne se retrouve à la tête de la boîte que son mari dirigeait. Et après quelques mois d'absence, monsieur est de retour, il tient précisément ce langage à sa femme.
Tu es assise dans mon fauteuil, tu as pris ton air bonasse, tu as généreusement accepté toutes les gratifications et toutes les augmentations. Bravo, tu as été remarquable. Mmh. Maintenant, on va remettre sa panoplie de madame le PDG au vestiaire et puis on va revenir à ses activités familiales et domestiques.
Je crains qu'il y ait un petit malentendu entre nous, Robert.
Enfin, qui c'est le patron ici, nom de Dieu ?
Moi.
Février 2026, Clémentine Célarié joue le rôle de Suzanne Pujol dans Potiche au Théâtre Libre à Paris, dans une mise en scène de Charles Templon. Et le jour de notre rencontre, les répétitions étaient prévues de 14 à 23 heures.
Non, parce que là, on est dans la période où c'est comme si on savait qu'il y avait une mine d'or quelque part. Alors on creuse, puis à un moment donné, on se dit, mais putain, mais c'est où la pépite ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que bon, je me dis, mais c'est nul, enfin, le texte est énorme, il est vraiment, c'est un énorme texte. On est tout le temps inquiet, moi je suis tout le temps inquiète parce que le texte, je ne l'ai pas encore. Vous voyez, donc je n'ai pas assez de liberté, et puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait de comédie, et que je redécouvre le swing, c'est-à-dire ça swing, quoi. La comédie, c'est bam, 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 et en même temps avec une profondeur, enfin une sincérité. Moi, je ne peux pas faire poète-poète, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme sur qui tombe le pouvoir, parce qu'elle ne veut pas de pouvoir, forcément, c'est ça qui est beau.
Pour resituer, elle s'appelle Suzanne Pujol. Elle est femme d'un industriel.
Absolument PDG.
Elle est qualifiée de potiche par sa propre fille.
Oui, absolument.
Et à la faveur, je pense qu'on peut dire ça, d'une crise cardiaque de son mari.
Oui, c'est ça, voilà. Voilà, oui, absolument.
La direction de l'entreprise, donc le pouvoir lui tombe dessus.
Oui.
Et là, Suzanne se révèle.
Ben voilà. C'est-à-dire qu'elle se révèle par obligation, sans même savoir qu'elle était capable de gérer une entreprise. Et ça, c'est beau. Parce que je pense que ça doit être le cas de plein de femmes qui n'ont pas confiance en elles, parce que dans l'éducation, on leur dit « Maman est comme ça, moi je suis comme ça aussi, j'ai aucune confiance. » Et alors surtout, elle exerce ce pouvoir avec un bon sens généreux, avec une bonhomie, avec ce qu'elle est en fait. Et donc elle a une certaine générosité, elle est un peu décalée parce que bon, elle fait des trucs un peu, les gens comprennent pas. Je connais très bien ça aussi. Et il y a des points communs et entre elle et moi. Et en fait, elle le fait avec. Elle veut qu'il y ait une belle ambiance dans l'usine, que les gens mangent bien, qu'elle reste. Oui, mais. J'adore parce qu'il y a quelque chose d'innocent.
J'aimerais qu'on s'attarde sur un truc que vous venez de dire. Quand vous dites « entre elle et moi, il y a des points communs », vous avez dit « les gens ne comprennent pas, je connais ça aussi ». Comment, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire qu'en ce qui me concerne, beaucoup de gens n'ont pas compris et ne comprennent toujours pas quelquefois, même dans ma famille. J'ai des délires quelquefois qui n'ont pas été compris, qui ont été mal pris. Moi, j'aime Will Ferrell, vous voyez. Will Ferrell, c'est... Je suis fanat de Will Ferrell. Ben Stiller, tout ça, toute cette famille. D'ailleurs, il y a plus de mecs dans la dinguerie que des femmes. C'est dommage. Parce que si j'étais un homme et que je faisais des trucs complètement jetés, je pense qu'on l'accepterait plus. Les gens du métier, les décideurs, ont dû se dire « elle est complètement jetée, elle est folle, elle a... » Il y a des malentendus, si vous voulez. Mais moi, je remercie l'âge et la maturité, parce que à force, quand vous êtes toujours là, enfin, je touche du bois, hein, quand vous êtes toujours là et que vous pouvez continuer à travailler et que vous voulez, en fait, finalement, les gens comprennent. Au bout d'un moment, ils comprennent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça met du temps. Et c'est aussi lié au fait, je pense, d'être une femme. D'ailleurs, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus d'hommes qui font ça que de femmes. Il y en a une qui est comprise, c'est Le Mercier, par exemple, Valérie Le Mercier. On la comprend. Mais vous voyez, par exemple, dans Les Visiteurs, elle fait un rôle qui est un peu proche de Suzanne Pujol dans Les Visiteurs.
Grande bourgeoise.
Voilà, grande bourgeoise. Et ben, il paraît que vraiment sur le tournage, c'était très dur pour elle. Et que quand elle a entendu les gens dans la salle, la projection, alors là, c'était... Parce que le public comprend beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Donc oui, j'étais pas été comprise dans ma vie, dans mes choix, dans ma façon de parler des hommes, etc. Mais
pourquoi vous aviez quelle façon de parler des hommes?
Bah, j'en parlais très librement, en disant, bah, là, je suis amoureuse, et puis là, je suis comme ça. Maintenant, je ferme ma gueule, parce que bon, d'abord, je me dis que c'est toujours récupéré, si vous voulez, mais.
Oui, mais vous savez quoi? Ce que vous incarnez, c'est un plaisir d'être une femme. Et prendre plaisir à être une femme, et de jouir de tout ce que ça suppose, ce n'est pas ne pas être féministe.
Ah non.
Il y a ça chez vous. Il y a une gourmandise.
Oui. Ben oui. Mais c'est une gourmandise. Alors, par exemple, merci de me dire ça, parce que je le prends comme un truc chouette. La gourmandise, elle est, j'allais dire, elle est liée à l'enfance. Elle est liée complètement à un rêve d'absolu. C'est absolument pas une gourmandise sexuelle. C'est une gourmandise que j'ai, qui est une gourmandise de l'état amoureux. Moi, j'adore l'état amoureux. En ce moment, je suis amoureuse de Potiche, si je puis dire. Je dors avec le texte sur mon lit, je l'écoute en m'endormant, je l'écoute en me réveillant. Quand j'ai une insomnie, je l'écoute, je m'enregistre, vous savez, j'écoute le pour apprendre. Et puis, c'est absolument ma vie. Je ne pourrais avoir aucune place pour un homme. Vous voyez ce que je veux dire, en ce moment, c'est le cloître, vous voyez, c'est le... Et c'est génial, j'adore ça. Et c'est amoureux. C'est un état amoureux, c'est un état d'absolu. Alors maintenant, je me méfie de moi, parce que je peux tomber amoureuse, moi, comme ça. Enfin, je veux dire, heureusement que je ne suis pas bisexuelle, sinon ce serait un enfer.
Ah, vous êtes une désirante, quoi.
Oui, absolument, oui. Je trouve que le désir, c'est un moteur. C'est lié à l'espoir. Quand vous réfléchissez même à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qu'on soit au théâtre... Quand je joue Potiche, mais c'est une chance, mais inouïe. Et en même temps, il y a du fond. C'est drôle, mais il y a ce fond-là de...
Suzanne Pujol est une grande bourgeoise.
Oui.
Donc femme d'un PDG d'une entreprise qui va, comme vous l'avez dit, qui va se retrouver investie d'un pouvoir auquel elle ne s'attendait pas du tout, et elle va assurer. Ce n'est pas la première fois que vous interprétez une grande bourgeoise.
Non.
Est-ce que c'est un monde que vous connaissez?
Alors, un peu... Du côté, alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que, oui, j'ai, oui. Du côté de maman,
Parce que oui. Votre mère, qui vient de la famille Breguet,
oui.
Qui est une famille de la grande bourgeoisie, en fait.
Oui.
Liée à l'aviation.
Oui, absolument.
Donc, c'est un milieu que vous avez pu observer.
Alors, je l'ai pas observé parce que comme je suis née en Afrique, on était loin. Et maman, elle, a été toujours tiraillée entre cette grande bourgeoisie et sa maman, qui était cantatrice, qui a quitté son mari, donc mon grand-père, pour vivre avec un peintre qui avait pas un rond, etc. Vous voyez, donc.
Mais est-ce que, par exemple, pour jouer des grandes bourgeoises, dont ce rôle de Suzanne Pujol, vous avez puisé là-dedans?
Oui. En fait, j'ai puisé chez une amie spécialement de maman, que j'adorais, hein, Tante Clozy, pour ne pas la citer, parce qu'elle était très douce, très gentille, et je sais qu'elle ne me jugeait pas, elle. Bref, donc, elle m'a inspirée beaucoup souvent. Alors moi, je suis très droite dans Potiche, et j'ai toujours les mains un peu comme ça, comme...
Les mains jointes.
Les mains jointes. Alors j'ai les ongles faits, bon, c'est complètement faux, etc. Des cheveux comme ça, bien coiffés... Elle est tenue, quoi. Donc ça, je l'ai vue, oui. Parce que Suzanne Pujol, c'est une gentille dame. Et puis quelquefois, quand vous êtes gentil, on vous prend pour un con. Vous voyez ce que je veux dire, pour une débile. Elle est un peu neuneux, mais... Et en même temps, Charles, a raison, mon metteur en scène, Charles Templon, me dit, et elle est dans un déni total tout le temps. Ça me fait rire. Ça... Bon, mais moi je connais un peu le déni aussi, parce que j'ai eu ça, même avec le cancer, tout ça, il y a des moments où on dit, allez, dégage, vous voulez pas vous pencher sur des trucs qui vous emmerdent, bon, vous dégagez. C'est un peu une forme de déni. Donc là, elle est dans un déni, c'est comme si elle savait que son mari un peu la traite comme... Mais oui, oui, bien sûr, elle veut pas qu'il y ait de soucis. En même temps, c'est drôle, les rôles de femmes méchantes... accro au pouvoir, c'est drôle. Mais elle,
vous en avez déjà joué ?
Oui, oui. La Vengeance d'une blonde, c'était, il fallait que je parle à toute blinde. Je jouais avec Clavier, Marianne Chazelle. C'est un très bon souvenir, mais c'est un souvenir d'un sacré entraînement de le rythme. J'adorais parce qu'elle était complètement. Mais écoutez, Gérard, bon, elle avait dans le grave comme ça, très dans le grave. Après, il fallait se parler. Blablabla, toute blinde. Et puis elle était. C'était un personnage excessif, quoi, complètement folle. Elle était jetée un peu. Ça, c'est drôle. Ça, c'est aussi à faire.
J'ai rendez-vous avec mademoiselle de la Baume.
Ah, c'est vous, Gérard Bréard. Suivez-moi.
Dans La Vengeance d'une blonde, Clémentine Sellarié est Marie-Ange de la Baume, directrice de l'information de TV8. Et dans la scène qui suit, elle est dans son vaste bureau pour recevoir le journaliste Gérard Bréat, Christian Clavier à l'écran. Chignon serré, jupe crayon, talon haut, Marie-Ange de la Baume veut promouvoir Gérard au journal de 20h. Christian Clavier et Clémentine Sellarié.
En réalité, j'ai commandé un sondage très pointu ciblé sur un panel de 5000 téléspectateurs pour établir la physionomie du présentateur idéal.
C'est très très passionnant.
Voici, Gérard, l'homme qui réunit plus de 78,3% des suffrages. Cet homme que réclame le public, c'est vous. Même morphologie ovoïde de type indo-européen, menton à tendance rétronasale qui signifie un tempérament très très volontaire, qui d'ailleurs, si l'on n'y prend pas garde, peut glisser vers une tendance psychorigide. Oreilles bien collées, sensibilité contrôlée. Certes, chez vous, les traits sont un peu plus épais, le nez un peu plus long. Oui.
Dans Potiche, aussi Clémentine Sellarié est une femme de pouvoir, mais au parcours très différent, vous l'avez compris. La direction de l'entreprise, jusqu'alors dirigée par son mari, lui échoit. Elle fait avec et s'en accommode très bien. Alors quand monsieur souhaite reprendre son fauteuil de PDG, Suzanne lui dit « bas les pattes ».
Alors ça fait du bien. Je dis ça doucement, comme s'il fallait que je vous dise ça doucement. Comme si c'était honteux. Alors en fait, ce n'est pas honteux, donc je le dis tout fort. Ça fait beaucoup de bien de jouer le rôle d'une femme qui dit à un homme, écoute, parce qu'il veut la déloger, à un moment donné, quand il revient, vous voyez ce que je veux dire ? Elle dit non, non. Et là, j'ai tout un truc. Écoute, j'ai examiné longtemps la situation pendant que tu voguais en Méditerranée. Alors voilà, j'ai donc hérité 25% des actions de papa, et elle fait un truc que moi, de ma vie, parce que moi, je fais escroquer. Moi, vous voyez, je suis pigeon, moi. Mais alors là, de pouvoir dire à un homme... qui me méprise, qui lui dire, voilà, il y a ça, tac, 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 tu vois, j'ai ça, 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 toi, t'as que ça, en fait, voilà. Tu croyais que t'allais m'avoir, en fait, non. En fait, c'est moi qui, voilà, d'accord ? Oui, oui, ce que je veux dire, ça, c'est jouissif. Parce que ça, c'est un... Moi, j'ai jamais fait ça, moi.
Un garçon qui réunit la Catalogne, la France et le Maroc, il s'appelle Ino Casablanca, Bissap du 20e.
Quitte à mettre la mi-fato, je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre, loin des bitches des ragots. Tiens, l'époque de Wigato, j'étais déjà plus nia. Cherchais juste à vivre, loin des bitches des ragots. À chaque crue, j'avais un nez. Après Dia. Tant que tu parles pour nada, que ça parle pour nada. Tant que tu parles. se peinent de la haine qu'ils s'aiment. Ils ne veulent pas qu'on s'aime, qu'ils crèvent. Tomber l'œuvre autour d'un bicep, non. Je leur en veux à mort. Ils veulent pas voir ma gueule avoir tort. Oh oui, ma vie, un gueule de bête de bitch. Son cœur est tendre, triste, non. Sur ma gueule, qu'est-ce ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'elle dit. Que j'ai fait de la sorcellerie. Mais non, 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 non. Sur ma gueule, qu'est-ce ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'es dit. Que je me venge sur la vie. Dia après dia da. Et quitte à mettre la mifato. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. Tiens, l'époque de Wikako. J'étais déjà plus nia. Je cherchais juste à vivre. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris remplis de série. Ils rêvaient de me voir banni. Mais toi, je vis ce qu'ils pourront pas vivre. Pas tard, je me venge sur la vie. Dia après dia da.
Elle avait 16 ans. Sa mère l'a emmenée voir les contes de la Bécasse de Maupassant, joué par Gérard Guillaume seul en scène, avec un livre à la main, une chaise et une table en bois pour seul décor. Depuis ce spectacle, Myriam Sélarié, dite Clémentine, a voulu faire du théâtre. Aujourd'hui, elle joue Suzanne Pujol dans Potiche, au Théâtre Libre, à Paris.
C'est une vie pour moi, parallèle, qui est en fait ma première vie. La vie parallèle, c'est le monde, c'est pas le théâtre. Vous voyez, pour moi, le théâtre, c'est ma vie. Et puis, ça apaise mon inquiétude parce que je peux modeler la vie. Vous voyez, je peux l'inventer. Je peux la.
C'est comme si vous aviez une forme de maîtrise sur le cours des choses ou.
Oui.
Sur vous-même, peut-être, je sais pas.
Oui, si, parce que. C'est comme si je faisais du sport, d'ailleurs j'en fais, mais tous les jours de sculpter quelque chose, et puis ça me rassure de chercher toujours, de ne pas être assis.
Mais alors, vous n'aspirez pas à une forme de sécurité, comme on dirait ?
Pas du tout. La sécurité pour moi, c'est d'être là. Quand je suis au théâtre, je me sens protégée du monde. Je n'aspire absolument pas à la sécurité. La sécurité, vous voulez financière, vous voulez dire ?
Bah, la sécurité, bon, en général, quoi.
En général.
Oui, l'idée de la sécurité.
Mais pour moi, je suis en sécurité quand je suis au théâtre. Je suis en sécurité quand je tourne, quand je suis avec mes enfants, mes petits-enfants. Sécurité, c'est-à-dire que je suis là où je dois être, si vous voulez.
Est-ce que vous avez eu peur à un moment de l'insécurité financière, par exemple, dans votre vie ?
Oh ben, enfin, peur. De toute façon, je vis ça régulièrement. Donc,
fait marrer.
Mais oui, parce que pour moi, c'est pas. Peut-être parce que je sais que mon ami et mon agent Laurent Grégoire a dit un jour à papa elle aura toujours un lit chez moi. Clémentine, c'est dingue qu'il ait dit ça. Qu'il y a Jérôme Fouché, qui est un ami producteur, qui a été avec moi pendant tout le truc du cancer et tout ça, et qui est un ami avec qui on va faire un prochain spectacle à Avignon qui s'appelle Mon Cowboy. Bref, qui est un vrai partenaire de vie et de travail.
Donc la sécurité, elle est là.
Elle est là. Alors financièrement, bon, bah, de toute façon, ça m'est tellement arrivé d'avoir des. Parce que moi, mon argent, quand je le gagne, je l'investis, je fais des prods, mais sauvages, oui, pour des films, pour de. Donc, si vous voulez, j'ai pas de. J'ai pas de propriété, j'ai pas en thalasso. Bon, d'ailleurs, je ferais bien y aller, parce que ça ferait du bien. Mais non, mais ça m'est arrivé d'aller en thalasso. Mais bon, disons que pour l'instant, c'est pas le. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, être au théâtre, je dirais encore plus labourer. Un champ labouré, être dans un truc de travail concret, vous voyez, de modeler de la terre. Ça, je trouve ça beau. Ça, pour moi, c'est la vie. Bon.
Alors maintenant, on va écouter effectivement la voix que vous avez choisie. C'est celle d'un comédien qui s'appelle Gary Oldman. Et plus précisément, quand il interprète Dracula, dans le Dracula de Francis Ford Coppola. Je ne vais pas traduire l'extrait,
non.
Parce que ce qui compte...
Oui.
C'est la voix de Gary Oldman et comment il en joue, quoi.
I am not accustomed to guests, and my heart grows weary with many years of mourning over them.
Je vais pleurer.
Drink. Drink.
C'est bien la radio, parce qu'on peut pleurer tranquillement. Alors, vous avez dit la façon dont il en joue, de la voix. Pour moi, si vous voulez, Gary Oldman, il ne joue pas, en fait, jamais. Pardon hein, de dire ça. Je pense que c'est un des acteurs les plus extraordinaires qu'on ait, parce que c'est un acteur qui, je ne sais pas comment il fait pour aller chercher au fond de lui, d'arriver à l'exprimer. Par exemple, il y a des moments où vous avez l'impression que vous exprimez quelque chose, et en fait, le metteur en scène vous dit « Mais pourquoi là, tu as l'air... fragile ou plaintive ou triste, je dis mais pas du tout. Enfin, vous voyez, donc quelquefois il y a un décalage entre ce qu'on croit exprimer bon, et ce qu'on exprime. Mais chez Gary Oldman, il y a quelque chose de tellement profond qu'il arrive à sortir de lui. Vous voyez, dans cette voix là, il y a des moments où il est là, il est comme ça, il est dans cette chose, il est noyé dans le personnage. Il n'existe plus. Il y a plus Gary Oldman. C'est Dracula. Vous avez vu, il y a des moments où sa voix change, elle devient parce que il a quelque chose de monstrueux en lui aussi, et d'un mélange de rage, de douleur, mais arriver à exprimer ça, Dracula, c'est un des plus beaux films qui existent de Coppola, hein. Il faut le voir, il faut voir ce que fait Gary Oldman, c'est dingue. On est amoureux de lui, enfin, ça, moi, c'est mon rêve, si vous voulez, de jouer dans une tragédie où vraiment vous, il faut se déchirer le ventre, si vous voulez, se libérer de soi-même, ne plus être là, disparaître. C'est extraordinaire, quoi.
Et ça vous émeut au point de vous faire pleurer, mais dans l'immédiat.
Ben oui, parce que c'est tellement beau. Pour moi, c'est ça la quête. Vous voyez, c'est d'exprimer cette beauté, de travailler pour qu'elle... Pour partager ça avec le maximum de gens. C'est une quête qui est évidemment compliquée, qui est complexe, on va dire. Parce qu'on ne nous tire pas forcément vers cette quête. Vous voyez, on nous tire vers le sensationnel, vers les effets, vers les trucs. Non, être acteur, être comédien, c'est un engagement. Pour moi, c'est l'espoir, le théâtre. Parce que c'est vivant, parce qu'on se donne, on donne toute notre énergie pour un partage humain. Oui, aujourd'hui, c'est un espoir.
Il y a un rôle qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui d'une femme qui se prénomme Gabrielle, dans une pièce que vous avez adaptée d'un roman, et qui s'intitule « Je suis la maman du bourreau ». C'est donc un roman de David Le Leello. Vous l'avez adapté pour le théâtre, oui. Dans un seul en scène. Vous l'avez mis en scène, vous vous êtes mise en scène seule. Et c'est l'histoire d'une grande bourgeoise catholique, dont le fils devient prêtre. Et il s'avère que cet homme a abusé d'enfants. Vous jouez cette femme qui traverse ce chagrin d'avoir aimé ce fils qui est un monstre. Dans le livre que vous avez écrit, « Ce feu qui me brûle », vous écrivez beaucoup sur ce rôle. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Pour quelle raison ?
Parce qu'il est difficile. Parce qu'il est très complexe. Parce qu'il est douloureux. Et en même temps... émerveillée, cette femme, et à une foi. J'avais envie de parler de la foi.
Ça a à voir avec la ferveur pour ce qui vous concerne,
ah oui.
Je trouve.
Ah oui, 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 merci de ce mot, que j'adore, évidemment. Oui, oui, merci. Moi, je suis guidée par ça, en fait. Quand les gens me disent, mais comment vous faites, ils me disent, comment vous faites, pour je ne sais pas quoi. En fait, moi, c'est ça. Ce truc me guide. Et c'est pour ça que je voulais exprimer cette foi, vous voyez, chez cette femme.
Il était quand même aussi question de pleurer tous les soirs.
Ah oui.
Mine de rien.
Oui, mais ça, c'est lié au cancer. C'est dingue, parce que je le sais, parce que j'ai écrit... Oui, c'est lié.
C'est lié au cancer.
Oui, parce que quand vous avez eu un cancer, après, vous êtes dans un truc de combat tout le temps qui continue. D'ailleurs, j'ai écrit ma pièce, c'est ma prochaine pièce, mon cow-boy, que je vais jouer à Avignon, elle parle de ça. Et le cow-boy, c'est mon cancer, en fait. C'est un mec à qui je dis, écoute, fous-moi la paix, j'en ai marre, là, maintenant. Vous traînez quelque chose que vous portez toujours, et que je porterai toujours, hein, mais plus ou moins, là, par exemple, là, je le sens plus du tout, le cancer, vous voyez. Parce que je suis obligée d'être, wah, 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 bam, bim, bam, boum. Mais quand j'ai fait Gabriel, je pense que j'étais guidée, c'est mon fils Abraham, mon fils aîné, qui m'a dit, mais t'avais envie de te frotter à un truc très, 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 presque... pire que le cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme d'aller me frotter, d'aller défier un espèce de truc, de dire, ouais, ouais, d'aller me combattre un truc encore plus dur. Et c'est marrant parce que d'instinct, on propose Potiche, et je me suis dit, tiens, mais c'est un entraînement d'être dans la joie. Parce que quand on sort d'un cancer, on a peur d'accepter le bonheur, quelquefois. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, hein, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ben là, il faut que j'accepte le bonheur de jouer ça et que tout soit très solaire. Mais vous savez, quand vous me parlez, en plus c'est vous, parce que vous avez une façon de nous faire sortir des choses de nous-mêmes, ça, mais je me rends compte qu'en fait, je pense que j'avais besoin de pleurer. Ça me faisait du bien de pleurer dans la maman du bureau, enfin, du bien. Ça me faisait du bien d'aller remuer, là, comme on remue une sauce ou je sais pas quoi, hein, ou des gravats, je sais pas, c'est, d'ailleurs elle en parle de ça, elle dit que c'est des gravats que, comme ça, pour que peut-être ça dégage, vous voyez, que chaque soir, allez, hop, voilà.
Pour faire place nette.
Peut-être, peut-être qu'il y avait ça. Mais c'est aussi se dépasser. Moi, j'aime quand on se dépasse. Mais là, la comédie, c'est plus dur que la tragédie, en fait. Ça demande une énergie et une plus que de pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que justement, on est, il faut inventer le soleil, quoi. Il faut inventer le, faut y aller, quoi. Vous voyez?
On dirait qu'on serait au Palace avec Blondie.
Clémentine Célarier, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter. C'est pas terrible, si.
Super.
Ça va?
Ouais.
C'est pas trop pub.
Non.
Parce que j'ai fait de la pub à un moment donné.
La dernière séquence de l'émission, c'est une photo.
Ah. Qu'est-ce que ça va être?
C'est une photo que je mets sur les réseaux sociaux, si vous êtes d'accord.
Ah, une photo de moi?
Oui.
Qu'on fait maintenant?
Oui. Non.
Ah oui, oh la vache. Ah bah si, non, mais j'ai une tête de fion un peu. Mais. Ah, je savais pas. Attendez, je vais
on
me remettre.
Vous voulez qu'on soit deux?
Ah oui. J'essaie de me rendre un peu. Ça va, de toute façon, on s'en fout. C'est pas grave. Toujours comme ça, un peu en l'air. Hein. comme ça on a l'air. Je vous jure, comme ça, c'est mieux toujours. On a l'air beaucoup mieux.
Ah d'accord, faut que je monte l'objectif.
Oui, oui. Si vous... Je vous jure, je vous raconterai un truc après là-dessus.
C'est bon là.
Faut donner envie si vous voulez. Mais faut encore que je bosse pendant 10 ans. Mais oui, c'est Gabriel Aguillon avec qui j'ai tourné. Il me disait, tu sais, quelquefois on fait des plans comme ça, mais le truc est là-haut.
La caméra est au-dessus.
La caméra est complètement au-dessus parce que ça dessine le visage et on est toujours plus l'œil comme ça, un petit côté. Oui, bon. Ça va, c'est très bien. Toujours, je ne regarde pas, je m'en fous.
On écoute la chanson que vous avez choisie ?
Ah oui.
Pour Totémique, Clémentine Cellari a choisi la voix de Cameron de la Isla avec cette chanson « Como el agua ».
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Oh, eso sí.
Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara.
Oui, je vais réagir tout de suite à plein de trucs qui me viennent. Alors, vous voyez, le chant gitan, c'est un truc extraordinaire. El Camarón de la Isla, ce chanteur en particulier. Moi, quand j'ai entendu ça, c'est un copain, Joël Matray, qui jouait la doublure du torero dans un film de Sable et de Sang. Eh bien, moi, j'entends ça, je me dis, mais je suis de là, en fait. J'appartiens à ça. Enfin, c'est ça, ma vie, c'est ça, ce que j'entends. Et j'ai même été jusqu'au point de dire à maman, mais enfin, est-ce qu'on n'a pas des origines gitanes ? Enfin, parce que j'ai eu la chance d'aller le voir au cirque d'hiver. Il y a une forme d'absolu. C'est pour ça aussi que j'adore le flamenco et que j'aime l'esprit gitan. C'est tout le temps. Alors, les braises sont tout le temps en feu, vous voyez ? C'est-à-dire, c'est tout le temps allumé, le feu. Et c'est ça que j'ai entendu quand j'ai entendu ça sur un truc à cassette. Il m'avait fait écouter ça, mais ça m'a choqué. Et j'ai tout laissé. Je ne suis pas rentré à Paris, où j'habitais. Et donc, je suis resté pendant 2 ans à Nîmes, où j'ai rencontré les frères Cortés, grâce au film de Jeanne Labrune, de Sable et de Sang. Et je suis resté pour la musique. Je suis resté et on a travaillé, on a fait des concerts, qu'on a été jouer au Bataclan. Quand je me vois chanter ça, je le trouve absolument ridicule parce que, si vous voulez, j'avais aucun filtre. De toute façon, j'en ai toujours pas. Mais je veux dire, quand on chante le flamenco, c'est quand même une voix intérieure. Enfin, j'ai pas assez travaillé, mais j'ai chanté ça avec eux. On a fait la Manche, on a joué au Palace, au sous-sol du Palace. Ensuite, on a joué au Bataclan.
Comment ça, vous avez fait la Manche ?
On a fait la Manche. Oui, on allait au Sainte-Marie, on allait dans les restos. On faisait. J'ai vraiment vécu. J'ai travaillé avec Georges, avec Jean-Louis, avec Antonio Cortés. Il est connu aujourd'hui. C'est un très grand guitariste de flamenco. Très grand. Il est extraordinaire. Il y a quelque chose là-dedans de... C'est sacré. C'est sacré.
Il y a une autre musique que j'aimerais vous faire écouter.
Ah.
En fait, je vous explique ce que j'ai fait. Je suis allée sur une plateforme d'écoute de musique et j'ai tapé Clémentine Cellari. Ah. Et je suis tombée sur une lecture de Madame Bovary, par vous.
Ah oui.
Et je suis tombée sur cette chanson.
I don't have room for shoes on your dresses, no more room
for colors on your faces. Na, 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 na. Ah oui, il y a un clip de ça sur... Ben oui. Alors c'est drôle que vous passiez ça parce que juste après la chimio, j'avais plus trop de cheveux. Le Covid m'a bien arrangé parce que j'ai pu cacher le cancer pour la tournée. Et du coup, j'avais pas trop de cheveux. Là, on a fait un clip. Moi, je voulais qu'on fasse un clip. Donc, je me suis mis un chapeau de cow-boy. J'adore le truc de cow-boy. Une espèce de combinaison dorée, tout ça. Et on a tourné un clip sur la pointe de Dinan, en Bretagne.
Ouais, ça veut dire quoi, let's get lost?
C'est perdons-nous, quoi. Perdons-nous dans des aventures, dans des... pas dans le sens de se perdre, de mourir, au contraire, de perdons-nous dans la vie, quoi. Perdons-nous dans l'inconnu, dans l'absolu, dans tous ces trucs. Il y a la passion, perdons-nous dans la passion. Tous les gens qui disent « Ah oui, mais la passion, ça fait mal. » Bah, de toute façon, l'amour, enfin, tout peut faire mal et énormément de bien, donc... Mais je vous dis tout ça, moi, quelquefois, j'ai peur. Hein. En ce moment, j'ai peur de tomber amoureuse, parce que je me connais, quelquefois, je tombe amoureuse, puis après, je suis plus du tout amoureuse d'un coup, je sais même pas pourquoi, enfin, moi... Donc, voilà, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, oui, parce que c'est une femme qui dit, je m'en fous d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir machin, tout ce que je veux, en fait, c'est toi, dans le sens de l'amour, de ce que je sais pas encore, vous voyez ce que je veux dire, de... Voilà.
Merci beaucoup, Clémentine Scénario.
Merci à vous, vous êtes trop chouette. Ça fait du bien de pleurer, de rire, de vivre pour vous. Merci à vous. Hein,
bon. Clémentine Scénario et Suzanne Pujol dans Potiche, pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, mise en scène par Charles Templon. Elle joue notamment aux côtés de Philippe Huchon et Paloma. C'est au Théâtre Libre à Paris. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Achille Aquenin ce matin. Perrine Malinge co-programme l'émission, Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation et JB Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, rendez-vous chez le musicien Frédéric Lau avec Michel Houellebecq.